Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Après s'être arrêté sur les vertus cardinales, le pape François s'est concentré sur les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, gages de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. C'était au cours de l'audience générale de mercredi 24 avril. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira au Burkina Faso, au Kenya et en Guinée, entre autres. La deuxième partie de ce programme concernera l'environnement. Nous retournerons sur la Journée mondiale de la terre nourricière qui s'est célébrée lundi 22 avril avec le professeur congolais Jean-Willy Ndemikiling. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'audience générale du pape de mercredi 24 avril.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Après avoir détaillé au cours des semaines précédentes les vertus cardinales, patrimoine de l'humanité, le pape est revenu mercredi 24 avril lors de l'audience générale sur la vie de la grâce selon l'esprit incarné par les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Des vertus qui nous protègent des dangers de l'autosuffisance, a-t-il précisé le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
La fede, l'espérance et la carité.
La foi, l'espérance et la charité sont appelées théologales dans la mesure où elles sont reçues et vécues en relation avec Dieu. Elles fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint dans les facultés de l'être humain, a rappelé François en citant le catéchisme de l'Église catholique. À la différence des vertus cardinales qui peuvent générer des hommes et des femmes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais seuls, voire isolés, le grand don des trois vertus théologales, a-t-il expliqué, est cette existence vécue dans l'Esprit-Saint. Le chrétien n'est jamais seul, il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, a précisé le pape, mais parce qu'en tant qu'humble disciple, il marche derrière le maître Jésus. Ces vertus sont ainsi le grand antidote à l'autosuffisance, a poursuivi le souverain pontife. Il est pour cela nécessaire d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint. Si nous avons perdu confiance, a conclu le Saint-Père, Dieu nous rouvre à la foi. Si nous sommes découragés, Dieu réveille en nous l'espérance. Si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour.
Après son exhortation et en saluant les pèlerins de langue française présents à l'audience générale, le pape François a dit.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier différentes paroisses et écoles venues de France, des Côtes d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Implorons l'Esprit Saint de nous combler de toujours plus de foi, d'espérance et de charité, afin de nous aider à marcher à la suite de Jésus en faisant les biens. Que Dieu vous bénisse.
À la fin de l'audience générale, le pape a lancé un appel à la paix au Moyen-Orient, en Ukraine et au Myanmar. François a rappelé que la guerre est une défaite dans laquelle ceux qui gagnent le plus sont les fabricants d'armes. Signalons aussi que le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, a affirmé qu'après 200 jours de guerre à Gaza, les membres de l'épiscopat évoquent la nécessité de trouver une solution acceptable pour tous. Ce qui s'est passé a clairement montré l'inévitabilité de la solution des deux États. Il n'y a pas d'autres alternatives, a ainsi expliqué le cardinal Pizzaballa. Avant l'audience générale, le Saint-Père avait rencontré le vice-président de la République du Ghana, M. Mahamudu Bawumia. Selon une note du bureau de presse du Vatican, le vice-président du Ghana a ensuite eu des discussions cordiales avec Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours du dialogue, les bonnes relations entre le Saint-Siège et le Ghana ont été soulignées, ainsi que certains aspects de la situation politique et socio-économique du pays, notamment la collaboration dans les domaines de l'éducation et de la santé. Puis, ce fut le tour d'un échange d'opinions sur l'actualité internationale et sur la sécurité. Intervenant mardi 23 avril au débat public du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, Mgr Gabriel Ekatcha, représentant permanent du Saint-Siège à l'ONU, a déploré l'utilisation des violences sexuelles liées au conflit comme armes et méthodes stratégiques de guerre par des acteurs étatiques et non étatiques. Le représentant du Saint-Siège a plaidé pour la participation pleine, égale et significative des femmes dans la prévention et la résolution durable de ce fléau. Depuis mardi 23 avril jusqu'au vendredi 26, les délégués africains au synode sont réunis à Nairobi au Kenya pour approfondir leurs connaissances sur la synodalité, les détails avec Stanislas Kambashi.
L'atelier est organisé par les symposiums des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar chez AM en collaboration avec l'initiative africaine pour la synodalité ASSI. Lors de l'ouverture des travaux mardi 23 avril, le secrétaire général du CHEAM, le père Raphaël Simbine Jr., a indiqué que l'atelier en cours vise à offrir aux participants la possibilité de réfléchir aux questions directrices proposées par le secrétariat général du synode en vue de l'Assemblée de 2024 prévue pour les mois d'octobre prochain dans le cadre d'un processus d'écoute, de dialogue et de discernement. L'atelier a également comme objectif aider les délégués africains à la deuxième session du synode sur la synodalité à accomplir leur connaissance et leur compréhension de la synodalité et à se concentrer sur la question de la prochaine session du synode. Comment pouvons-nous devenir une église synodale en mission, a expliqué les pères Simbine. Selon le secrétaire général du CHEAM, l'atelier offre en outre aux délégués l'occasion de partager et de rassembler les bonnes expériences et pratiques qui sont significatives pour la croissance d'un dynamisme synodal missionnaire au sein de l'Église à envoyer au secrétariat général à Rome d'ici le 15 mai 2024. Par ailleurs, cette rencontre offre aux délégués l'occasion de partager ce qu'ils ont vécu, enseigné, appris et observé au cours des presque 6 mois écoulés depuis la conclusion de la première session d'octobre 2023.
Les évêques catholiques du Soudan et du Soudan du Sud ont demandé aux autorités sud-soudanaises de mener une enquête approfondie sur la tentative d'assassinat de l'évêque de Rumbek, Mgr Christian Karlassare, le 25 avril 2021. Le père John Matiang Machol, ancien coordinateur du diocèse de Rumbek, a été condamné à 7 ans de prison par la haute cour de Djouba en 2023 pour son implication dans l'attaque contre l'évêque Karlassare. Mais le mois dernier, la cour suprême a annulé la condamnation du prêtre après que son avocat Malit Djoktiang ait déclaré que la cour n'avait trouvé aucune preuve contre son client. Le 16 avril, les évêques locaux ont annoncé la suspension ad divinis du père Machol conformément au droit canonique. S'adressant à la presse à Djouba, le président de la conférence épiscopale, le cardinal Steven Ameyou Martin Moula, archevêque de Djouba, a déclaré que l'Église était solidaire avec Mgr Karlassare après la libération du clergé Machol. Les évêques ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'acte de violence odieux à l'encontre de l'évêque de Rumbek et ont appelé les autorités à veiller à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de traduire les responsabilités en justice. Au diocèse de Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, Mgr Richard Kazadi a souligné l'urgence d'une catéchèse de l'écologie intégrale. L'évêque de Kolwezi s'exprimait le samedi 20 avril à la clôture des deuxièmes semaines sociales de Kolwezi organisées par la Commission diocésaine des intellectuels et cadres catholiques sous le thème « Exploitation minière, développement et environnement au Lualaba, une interpellation de la foi chrétienne ». Les détails avec Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
Pendant 4 soirées, quelques 400 personnes se réunissaient à chaque fois dans la salle de fête Immaculata. 6 sous-thèmes ont ainsi été traités, tels que développement de la province du Lualaba et foi chrétienne, une étude des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la province, ou encore écologie intégrale, selon Laudato Si du pape François, les implications pour la ville minière de Kolwezi, et encore gouvernance locale et salubrité publique à Kolwezi, expérience du mouvement Laudato Si dans le Haut-Katanga. Les conférenciers ont donné aux chrétiens et aux intellectuels à réfléchir sur l'environnement de Kolwezi et de la province du Lualaba. À la clôture des semaines sociales de Kolwezi, l'évêque de Kolwezi a proposé pour remède notamment la mise en route d'une pétition en faveur d'une exploitation minière soucieuse du développement intégral, l'urgence d'une catéchèse de l'écologie intégrale et un engagement pour préserver la dignité de la femme prise dans le tourment de l'exploitation minière artisanale. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Afrique australe est menacée par une pénurie de céréales en raison de la grave sécheresse due principalement au phénomène climatique El Niño, a prévenu mercredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le déficit de production attendu, notamment pour les maïs, devrait intensifier l'insécurité alimentaire, faire grimper les prix et augmenter les besoins d'importation dans la région, a averti la FAO dans un communiqué. Le maïs représente près de 20% de l'apport en calories consommé dans les pays de la zone Afrique australe et l'insécurité alimentaire aiguë qui a touché 16 millions de personnes dans la région au cours des trois premiers mois de l'année pourrait encore s'aggraver. Plusieurs quartiers de la capitale kényane Nairobi étaient inondés mercredi après de fortes pluies. Selon l'agence humanitaire de l'ONU OCHA, au moins 32 personnes ont péri et plus de 40 000 ont été déplacées le 18 avril après une nuit de pluie diluvienne où plusieurs quartiers de la capitale kényane ont été réveillés par des inondations. Quelques 18 personnes, pour la plupart des femmes, ont été arrêtées au Caire, en Égypte, au cours d'un rassemblement de solidarité avec les femmes de Gaza et du Soudan, rassemblement organisé mardi devant le siège de l'agence onusienne ONU Femmes. Parmi elles figurent les avocates des droits humains Rajia Omran et Marie-Nour El-Masri, ainsi que la militante Lobna Darwish de l'Initiative égyptienne pour les droits personnels. Au moins 5 soldats chargés de protéger un programme de développement agricole ont été blessés dans une embuscade du groupe armé Boko Haram mardi dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. Le spectre d'une nouvelle crise politique plane sur la Guinée. La junte au pouvoir ne semble plus capable d'organiser les élections telles que prévues par l'accord avec la CEDEAO sur le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel. Plusieurs dizaines de partis politiques et organisations de la société civile se mettent en coalition pour exiger l'organisation de ces scrutins d'ici le 31 décembre. La correspondance d'Emmanuel Minimono depuis Conakry.
Les premières levées de boucliers ont commencé dès l'annonce du Premier ministre qui disait qu'aucune élection n'aurait lieu en 2024, excepté le référendum, ce qui est contraire au chronogramme de la transition que la junte a signé avec la CEDEAO et qui fixait au 31 décembre 2024 la date de fin de la transition et le transfert du pouvoir à des autorités civiles élues. Ces atermoiements ont fait naître une grogne au sein de la classe politique et des organisations de la société civile qui soupçonnent désormais les militaires de vouloir confisquer le pouvoir en dépit de toutes les promesses qui ont été faites le 5 septembre 2021 lors du coup d'État. Pas plus tard que lundi 22 avril, la coalition des partis politiques et des organisations de la société civile a menacé de reprendre les manifestations de rue. L'ensemble de ces structures appelées désormais Union Sacrée a tiré la sonnette d'alarme à travers une déclaration. À défaut d'obtenir la satisfaction de ces revendications, les signataires de la déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants, peut-on lire dans la déclaration. De quoi faire redouter de nouvelles violences selon certains acteurs sociaux, la triste fin de la transition militaire de 2009 est encore fraîche dans les mémoires. Emmanuel Milimono, Conakry, pour Radio Vatican.
La justice du Burkina Faso a de nouveau ordonné la libération de Guy Hervé Kam, avocat et leader de la société civile, arrêté fin janvier et détenu depuis. Selon son organisation, la décision du 7 mars n'a pas été exécutée par les autorités burkinabées et l'avocat est toujours en détention. Dans la suite de la Journée mondiale de la terre nourricière, dont la 54e édition a été célébrée lundi 22 avril, marquant ainsi la troisième journée célébrée dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, le professeur congolais Jean-Willy Ndemikiling, ingénieur topographe spécialiste en sciences de l'environnement, nous instruit sur quelques méthodes préventives quant à l'occupation de certaines terres en proie aux inondations et aux érosions. Il propose quelques solutions quant à la gestion des déchets plastiques pour un environnement sain.
On fait les lotissements pour la prévention, pour que l'espace que nous allons occuper, qu'on ne puisse pas être en face des inondations, moins encore en face des érosions.
Professeur Ndemi, dans ce cas, que pourrait-on faire pour justement protéger notre terre nourricière, particulièrement les personnes qui occupent des zones en proie aux inondations et aux érosions?
Je fais allusion à l'espace urbain. Dans l'espace urbain, pour occuper, on doit faire les zonages, on doit faire les lotissements pour rendre la ville agréable. Donc, lors de l'occupation du sol ici, il ne faut pas donner aux pauvres des zones collinaires où la pente est supérieure à 8%, 12%, 15%. Non. Les gens qui n'ont pas de moyens doivent occuper là où la pente varie de 2 à 4%. Et d'autres espaces, on doit donner peut-être aux gens qui ont des moyens. Mais dans tous les cas, quand on fait les lotissements, on doit enlever, on doit faire les plans des pentes. On fait les plans des pentes, ça signifie il faut chercher quelles sont les zones constructibles et les zones non constructibles. Les zones non constructibles, on ne doit pas donner ça aux gens. Mais c'est au niveau de la zone constructible qu'on peut donner des parcelles aux gens. Et surtout que je viens de dire ici que des zones où la pente est supérieure à 8%, on ne doit pas donner ça aux gens qui sont faibles économiquement.
La prolifération des déchets plastiques constitue aussi un fléau qui menace notre terre nourricière. Que pourriez-vous proposer pour parvenir à une bonne gestion de ces déchets afin d'assainir nos différents milieux de vie?
Les solutions que nous pouvons envisager, c'est quoi? Nous sommes en train de nous répéter encore pour dire qu'il faut arriver à organiser les choses. Quand on parle de la gestion des déchets, même quand on parle de l'occupation du sol, ça doit être de manière durable. Ça signifie que dans les déchets, il faut mener les études. L'étude des déchets s'appelle rhydologie. Il faut mener les études pour comprendre les déchets. Il faut sensibiliser les gens. Il faut former les gens. Il faut, au niveau des ménages, qu'on puisse séparer, faire les tri au niveau des ménages. Amener les déchets, là c'est les autorités, amener les déchets au niveau des décharges contrôlées. À partir des décharges contrôlées, comme il y a des gens là-bas, et puis il y a des véhicules qui viendront prendre les déchets pour amener ça au niveau des décharges finales. Si les déchets sont bien gérés, on peut fabriquer les pavés et les pavés vont encore nous servir pour aménager nos parcelles.
Professeur Jean-Willy Ndemikiling, ingénieur, topographe, spécialiste en sciences de l'environnement et recteur de l'université du Sepromad à Inongo, en République démocratique du Congo. Il nous parlait des quelques solutions pour une bonne gestion des déchets plastiques pour la conservation d'un environnement sain lors de la Journée mondiale de la Terre nourricière, lundi 22 avril.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Moindoboa-Boalo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
Raini, alleluia, alleluia.
Alleluia, Yesu Christu, kafufuka. Alleluia, kafufuka, alleluia. Kafufuka, kama yeye alivyosema. Alleluia.
La la.